17h-18h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, mettre les voiles. Jamais cette expression n'aura été aussi chargée de fantasmes, d'impatience et de folles promesses d'une autre vie, forcément meilleure. Mais il faut du courage pour mettre les voiles. Antoine l'a fait il y a 50 ans, au sommet de sa gloire, et ce coup de barre pour changer de cap ne fut pas un coup de tête. Ça fait un demi-siècle qu'Antoine semble le plus heureux des hommes en sillonnant les océans sous des ciels d'un bleu clin, même si la liberté est une maîtresse exigeante hein, qui aime les âmes fortes et aventureuses. Je reçois donc Antoine qui fait paraître chez Voile Gallimard le guide le plus complet, le plus précis et le plus savoureux à lire pour tout navigateur en herbe qui rêve justement de mettre les voiles pour le bout du monde. Bah, d'ailleurs, le titre, il est évident, Mettre les voiles avec Antoine. Bienvenue, cher Antoine, pour cette escale sur Europe 1.
Merci beaucoup, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de se retrouver, comme j'ai un très bon souvenir d'une interview qu'on avait fait tous les deux, il y a à peu près... Quelques années, voilà.
Voilà, donc il était temps de se retrouver. Alors, on va poursuivre la conversation, Antoine. Voilà, tenir ce livre entre les mains, c'est déjà partir. Hein, partir vers le bleu de la liberté, vers des horizons immenses à la voile. C'est pas un livre pour ceux qui veulent faire des ronds dans l'eau, hein, comme vous l'écrivez, mais c'est un livre pour ceux qui réellement veulent partir.
Quand j'ai découvert le bateau, la première fois, j'ai fait des ronds dans l'eau pendant quelques heures, et puis tout de suite, ça m'a frappé qu'un bateau, c'était pas fait pour ça. Un bateau, c'était pour aller quelque part. Je savais pas où. Si c'était à la petite île, juste au coin, c'était à Boulouris, dans le Var, que j'ai commencé. Ouais. Pour aller vers des petites îles qui sont là, ou bien plus loin. Et puis je me suis dit très vite que non, c'est pour aller quelque part. Quoi. Et quelque part, c'était faire le tour du monde.
Voilà.
C'est ce qui m'a conduit à partir faire un tour du monde, le premier en 1974.
Aller quelque part, mais en fait ne jamais s'arrêter. Alors, ce guide extraordinaire et complet pour hisser les voiles, bah, il paraît que vous auriez bien aimé l'avoir sur votre bateau pour votre tout premier départ. Mais jamais un bouquin pareil n'avait été écrit. En fait, l'idée de la première mouture de ce livre, puisqu'il a été réédité donc plusieurs fois déjà et aujourd'hui totalement argumenté, on va en parler. Mais l'idée de la première mouture, elle est née d'une conversation inattendue un jour comme ça à Moréa.
Oui, avec Bernard Moitessier, grand navigateur et grand écrivain aussi, pour ceux qui se rappellent pas, il s'était rendu célèbre parce que de la première course autour du monde en solitaire, il était sur le point de la gagner, et tout d'un coup, il a dit, non, je remonte pas chercher des lauriers qui me feraient perdre mon âme, et pour sauver mon âme, je repars.
Ouais.
Donc il est parti, il a avisé un cargo, il a jeté avec un lance-pierre, il y avait pas de communication à l'époque,
ça a beaucoup progressé,
j'en parle dans le livre d'ailleurs. Mais il a lancé un petit message comme ça avec un lance-pierre vers un cargo qui disait « Je retourne en Polynésie pour sauver mon âme, ne m'attendez pas sur la ligne d'arrivée. » Voilà. Et ça lui a donné une célébrité mondiale. Et ces livres par la suite, dont « Tamata et l'Alliance », un livre majeur, vraiment très important, ont fait que beaucoup de gens ont rêvé de partir en bateau et beaucoup sont partis.
Voilà, beaucoup sont partis, mais attendez, la voile, ça ne s'improvise pas quand même. Hein. Il ne s'agit pas de tourner la clé, c'est pas un bateau à moteur. Alors, on vient de le dire à l'instant, Antoine, votre guide sorti en 80, il a plusieurs fois été remis à jour, mais aujourd'hui, en 2024, sur un voilier, eh bien, l'électronique règne. On a des logiciels de navigation, les cartes sont numériques, et puis le monde change, les destinations changent. En fait, vous ne naviguez plus du tout comme vous naviguiez il y a 20 ans.
On navigue plus du tout de la même façon, c'est certain. Mais la mer reste la mer. La mer reste ce qu'elle est. Et puis, l'électronique, vous savez comment c'est? Ça tombe en panne. Alors, on peut en avoir. J'ai cité un proverbe.
Dites pas que vous avez des sextants sur votre voilier ultra-moderne.
J'ai un sextant, il doit être un peu abîmé. Mais par exemple, le sextant, moi, mon premier tour du monde, je l'ai fait uniquement avec un sextant. Il n'y avait que ça qui me lisait où j'étais. Et petit à petit, j'ai vu arriver des satellites qui ont permis de trouver sa position une fois de temps en temps, ensuite de plus en plus précis, et maintenant avec une précision incroyable. Quoi. Maintenant, on sait où on est, mais ça peut tomber en panne. Quoi. Alors, si quelqu'un, par exemple, avait envie encore de savoir comment naviguer avec un sextant, parce que c'est une science merveilleuse, en fait, avec les étoiles, le soleil qui vous disent où vous êtes, c'est un truc qui fait rêver, encore plus dans un monde plein d'informatique comme maintenant. Voilà, on n'a pas inclus dans le livre la méthode qui est assez pas compliquée, mais qui demande de la place, demande de la réflexion, etc. On a mis dans le livre des quantités de QR codes pour accéder à des tas d'informations en plus.
Très 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 pratique.
Et en particulier, si vous avez envie d'apprendre à naviguer avec un sextant, eh bien vous avez tout ce qu'il faut, y compris les publications, comment télécharger gratuitement les publications, etc. Et puis du coup, on a mis plein de choses, des petites vidéos, un peu comme ce que font les gens sur YouTube maintenant, qui racontent un voyage, qui donnent des conseils, des astuces pour le mouillage.
Mais donc, je dois dire que... il est vraiment à embarquer quand on part pour la première grande traversée.
Ben c'est ça l'idée. Le livre n'existait pas donc il y a 50 ans. Et puis on avait, avec Bernard Mottessier, on s'est dit, il faudrait faire ce livre qui nous apprenne aussi bien à faire marcher un bateau, mais aussi réparer un moteur, mais aussi réparer des voiles, mais aussi la santé, comment se soigner si on est malade, comment conserver les aliments, comment faire la cuisine quand on n'a plus grand-chose.
Oui, c'est complet.
Et puis la sécurité, le mouillage, tout ça, les manœuvres, tout est dans le livre. Je dis, ça ne remplace pas des guides comme le guide des Glénans. Mais Bernard Mottessier avait eu m'a fait l'immense honneur d'écrire une phrase qu'on a reprise dans le livre. C'est je recommande le livre des Glénans et le livre d'Antoine aussi.
Sur
l'étagère, c'est prestigieux.
Mais c'est prestigieux, j'ose pas passer derrière Bernard Mottessier, mon Dieu. Alors Antoine, les gens que vous croisez au mouillage dans les îles du Pacifique, eux aussi ont changé. Ils sont, paraît-il, de plus en plus jeunes. Peut-être ont-ils décidé de fuir le monde moderne, mais généralement, de quoi vivent-ils pour entretenir leur bateau?
Je parle dans le livre des différentes façons. Il y a par exemple des gens, il y a des retraités, hein, des gens qui ont pris leur retraite anticipée, qui n'ont pas attendu d'avoir 64 ans, qui sont partis avec une retraite moins grande, mais qui sont partis parce qu'ils voulaient partir, quoi. Il y en a d'autres qui ont choisi des métiers qui travaillent de façon saisonnière. Il y a de nos jours, il y en a même qui font du télétravail.
Oui, c'est ça, sur l'ordi.
Avec ça, a changé beaucoup maintenant. Avec une bonne connexion Internet, comme on peut l'avoir maintenant, eh bien, il y a des gens qui font du télétravail, qui font du commerce, qui font toutes sortes de choses, quoi, qui racontent leur vie, c'est fascinant. Et moi, qui ai passé beaucoup de temps sur les océans et qui maintenant passe de plus en plus dans les montagnes d'Auvergne, on en parlera tout à l'heure, et ben, je regarde souvent, il y en a qui se foutent un peu de la gueule du monde parce qu'ils mettent une nana en string ou un petit maillot de bain.
On les connaît, les excès d'Internet.
Et ils font des millions de vues et
tout. Voilà, c'est ça.
Mais par contre, plein d'autres qui racontent leur... et qui donnent des très bons conseils, quoi. Donc, je ne suis pas de l'époque d'Internet et de YouTube et tout, mais le livre a un lien avec tout ça.
Absolument. Savoir universel. Alors Antoine, les gens du voyage, on les connaît sur Terre, vous l'êtes, en fait, sur mer. Vous avez fait deux fois le tour du monde à la voile, vous avez visité 80 pays sur votre bateau, mais le plus souvent en solitaire, rarement à deux. Ça implique un tempérament particulier de sillonner le monde en solitaire.
Je pense que j'ai... On parle trop à la première personne, mais je pense que
un solitaire a le droit.
J'ai toujours été solitaire. Dans mon enfance, j'ai pas eu une enfance malheureuse du tout. J'ai voyagé beaucoup, j'avais une famille aimante, etc. Mais j'étais toujours solitaire. Je partais à l'aventure, j'avais envie de découvrir tout seul. Ensuite, quand j'étais emporté dans le tourbillon de la chanson, faire des tournées, des spectacles et tout, c'était pas la foule, ni les copains, ni les dîners avec les copains et tout qui me plaisaient, c'était la solitude, quoi. Je partais, je m'échappais.
Dès que vous quittiez
chaque
la scène.
Fois que je pouvais, etc. et tout.
Ouais.
Et le départ en bateau, ça devait se faire, on était une bande de copains qui devions le faire ensemble. Et puis chacun des copains a eu un changement dans sa vie, hein, est devenu rédacteur en chef d'un magazine, un autre, il ne pouvait plus partir. Moi j'ai dit, mais c'est pas grave, je pars seul, voilà. Donc j'étais ni costaud, ni très doué pour la navigation, j'avais pas d'expérience, mais je suis parti.
Mais vous
ça.
Aviez envie.
Ah oui.
Alors, vous avez donc sillonné les océans seul, vous n'avez jamais eu la tentation de jeter l'ancre pour de bon dans un mouillage paradisiaque?
J'ai jeté l'ancre dans les mouillages paradisiaques, mais...
Mais ponctuellement.
Oui, pour...
Vous repartez toujours.
Mais je dois reconnaître que dans ces 20 dernières années, enfin le premier quart de siècle de ce nouveau millénaire, eh ben, j'ai passé, avec ma compagne française, on a passé des mois et des mois dans un ou deux lieux précis de l'archipel des Tuamotu en Polynésie, qui sont des images, je pense, les plus proches du paradis terrestre, ou marin, qu'on puisse imaginer.
Oui.
On les a savourés, on a adoré ça, mais on a eu aussi envie de partir, voire voyager. C'est la richesse du bateau, quoi. Alors, jamais eu envie de s'installer définitivement, non. Et d'ailleurs, un peu comme Ulysse revenant d'un long voyage, après avoir vu toutes ces belles choses, et mes parents ne sont plus là pour vivre entre les siens le reste de mon âge, mais par contre, je redécouvre chaque jour la beauté de la France, et en particulier de la région où je vis maintenant la moitié de l'année, c'est l'Auvergne.
L'Auvergne, mais moi je reste sur les océans, là, juste pour cette question qui va peut-être vous paraître indiscrète, Antoine, mais quand même, sur la durée, parce que vous êtes donc dans les îles avec votre compagne, mais quand il s'agit de grandes traversées, souvent vous êtes seul. Donc sur la durée, la vie en couple, elle n'est pas faite pour la navigation en haute mer et les grandes traversées incessantes. En fait, les voiliers ne sont pas partageurs.
Moi, je suis un petit peu particulier, j'aime la solitude. Il se trouve que ma compagne a le bal de mer dans les grandes traversées. Donc elle ne fait pas les grandes traversées. Et ben moi, ça me va très bien. Elle me rejoint dans, comme on l'a fait, dans les archipels des Tuamotu, ou bien aux Marquises, ou bien un peu partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande.
Vous êtes né à Madagascar, et très jeune, vous avez vu du pays, car votre père, ingénieur, travaillait pour les travaux publics d'outre-mer. Donc, vous êtes passé de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-à-dire quand même le Grand Nord près de Terre-Neuve, hein, au Cameroun.
Oui, oui.
Tout ça dans l'enfance.
Voilà, avant d'avoir 10 ans, j'avais traversé 4 fois l'Atlantique, non pas sur un voilier, sur des voiliers, mais sur les paquebots de l'époque. Quoi. C'était pas comme les monstres de croisière maintenant, hein, mais des paquebots de l'époque. Quoi. C'était le boulot pour mon père de nous emmener dans ces pays incroyables. Quoi. C'est comme ça que je suis venu à Madagascar. Lui, il avait vécu à Djibouti, en Algérie, et puis ensuite, donc, Saint-Pierre-et-Miquelon et le Cameroun.
Donc, la mer, vous était familière.
La mer m'était familière, mais je rêvais pas du tout de la mer, quoi. Je rêvais, bon, je lisais Le Vieil Homme et la Mer, et d'histoires de pirates et tout, mais du coup, la mer n'était pas quelque chose de ami, quoi. C'était pas quelque chose qui voulait nous aider, quoi. Nous voulait du bien, quoi. dans mon enfance, on faisait pas des petites régates, on faisait pas de yacht club, de machin comme ça. Quoi.
Bon, on apprend à devenir adaptable, Antoine, quand on passe son enfance comme ça, sous des latitudes aussi diverses.
Ben, on s'adapte, c'est vrai que Saint-Pierre-et-Miquelon, le port était gelé, pris par les glaces.
Mais c'est incroyablement rude.
5 mois par an, on marchait dans la neige. Des fois, il y avait des jours où il fallait faire un trou dans la neige pour sortir de la maison, parce que la neige montait jusqu'au premier étage.
Mon Dieu.
Voilà.
Et vous êtes passé directement de Saint-Pierre-et-Miquelon au Cameroun.
Et puis après un petit séjour de 8 ou 10 mois en France, on se retrouvait au Cameroun où c'était les tropiques, vraiment l'Afrique, quoi, l'Afrique équatoriale ou occidentale, oui, l'Afrique, peut-être équatoriale, l'une ou l'autre, quoi. Enfin, l'Afrique.
En tout cas, un électrochoc.
Oui, oui, c'était un électrochoc. Mais on a même failli partir à Tahiti.
Oui.
On a même failli partir à Tahiti, et puis quelque part, un collègue de mon père lui avait piqué la place sous son nez au dernier moment, alors que nos bagages étaient faits. On partait pour Tahiti et on est parti au Cameroun à la place. Alors, c'était fascinant parce qu'on était dans un endroit, il y avait des éléphants, il y avait des artistes camerounais qui faisaient des choses impressionnantes, qui venaient déballer leurs œuvres d'art sur la terrasse de notre maison à l'heure du déjeuner et tout. C'était fascinant. C'était bon. Enfant, on ne percevait pas tellement la chance qu'on avait, la chance incroyable qu'on avait. Mais par exemple, on a eu la chance de découvrir des musiques que personne connaissait en France à l'époque, parce que c'était le quotidien des Camerounais, quoi.
Bien sûr.
J'en parlais avec Manu Dibango, ami Manu Dibango.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la world music.
Oui, c'était.
Vous étiez dans vos tympans, alors que vous aviez 10 ans.
On était déjà là-dedans, quoi. Ça nous fascinait, quoi. C'était très intéressant.
Et puis, il a fallu revenir en France. Alors, comment s'est passé le retour en France, en Haute-Savoie, à l'âge de 14 ans, après 4 années passées au Cameroun?
Ça faisait bizarre, parce que dans tous ces pays, il y avait une espèce de gentillesse qu'on n'a pas tout de suite retrouvée, parce que d'abord, on était à Marseille, où c'était les petits voyous qui nous surprenaient à nous, qui étions des petits enfants bien sages des pays lointains comme ça. Alors, il fallait un petit peu se défendre, quoi. Mais on n'a jamais été ni harcelé réellement. Je dis, on va s'y arriver, mon frère, il y avait ma sœur, il y avait moi. Ça n'a pas été un problème, d'autant que on est rentré en France, même à Marseille, très grande ville, on vivait sur la corniche.
Oui.
Mon oncle avait une maison incroyable sur la corniche. C'était un truc qui doit doit coûter une fortune maintenant, mais à l'époque, c'était une maison familiale de rien du tout, quoi. Et puis, ensuite, en Corse, c'était le village, mon père était corse, donc on allait, sitôt qu'on avait un moment, on partait en Corse.
Mais toujours la mer, portée de regard.
Oui, mais la Corse, c'est la montagne aussi, hein. On était dans le village de mon père, on ne voyait pas la mer. Hein.
C'était, on ne voyait pas la mer.
et les Alpes, parce que ma mère était raffolée des Alpes, au minimum des Vosges et des montagnes, des Vosges, mais surtout des Alpes.
C'est la raison pour laquelle vous êtes retrouvé à Thonon-les-Bains, puis Grenoble.
Et voilà, c'est ça.
Alors Antoine, votre père était ingénieur, vous l'êtes devenu. Vous avez fait maths sup et maths spé, puis centrale à Paris, mais pour la petite histoire, bien avant de chanter les élucubrations et vouloir mettre Johnny en cage à Medrano, bah vous étiez un fan de Johnny au point de l'attendre dans le froid à la sortie d'un concert comme ça, juste pour un autographe. Ah, moi, vous avez fait ça.
Moi, j'ai été fan de Johnny tout de suite. Le Johnny,
avant de devenir son concurrent
direct. Le
Johnny
à chemise en dentelle et qui se roulait par terre et tout ça. J'ai adoré. Et tout de suite, j'avais décollé les affiches de Johnny des murs de ma ville, d'Annecy, pour les mettre dans ma chambre et tout.
Non.
Et effectivement, j'étais allé voir Johnny à Grenoble, au théâtre de la ville, je pense, je ne sais pas comment ça s'appelait. Et je voulais un autographe. Et j'ai attendu des heures dans le froid sur les bords de la rivière. Et Johnny est arrivé, j'ai eu mon autographe et moi j'ai attrapé une crève épouvantable.
C'est vrai, vous l'avez payé cher l'autographe.
J'ai attrapé une crève épouvantable, mais j'étais au lit pendant. J'étais en prépa, c'était des études sérieuses, hein, mais ça a été. J'ai passé mes examens sans problème, je suis rentré à l'école centrale.
Bah oui, extraordinaire.
Et accessoirement, cette fièvre m'a fait grandir de 15 cm. Je suis relevé, j'avais pris 15 cm. C'était quand même assez étrange. C'est grâce à Johnny.
Grâce à Johnny qui ignorait que, quelques années plus tard, peu de temps après d'ailleurs, vous chanteriez les élucubrations ou vous parliez de le mettre en cage à Medrano. Mais Antoine, vous êtes sorti de Centrale avec votre diplôme d'ingénieur en 66. Vous avez signé un contrat de chanteur chez Vogue en 65. Faut quand même nous expliquer comment tout ça a pu s'emboîter parce que ce sont deux vies qui fonctionnent pas du tout ensemble.
Ah, mais ça s'est passé en douceur. J'ai pas eu de gros déboires. L'école centrale avait une espèce de, je dirais pas une tradition, mais il y avait eu quelques élèves hors normes. Certains des grands constructeurs comme Gustave Eiffel, d'autres qui ont révolutionné l'industrie, par exemple du tourisme et de l'hôtellerie, comme les deux garçons qui ont créé le groupe Accor, qui avaient démarré. L'un d'eux était un centralien. Mais il y avait aussi des gens plus farfelus, dont Boris Vian.
Absolument. Boris Vian est un centralien.
Et un jour, il y a un copain de l'école, on avait des cours en amphi, et il m'a glissé un roman de Boris Vian, c'était L'écume des jours, et c'était un des, disons, je dirais, de la douzaine de livres qui ont changé ma vie au cours de tout ce temps. Quoi.
Pour quelle raison ?
Parce que j'ai découvert une poésie, un humour, une espèce de je m'en foutisme, de mépris en même temps que l'admiration. De tous les actes de la vie, de toutes les choses de la vie, c'était un petit peu tout ça chez Boris Vian. Et du coup, j'ai lu tous ses livres et puis je me suis plongé là-dedans et j'ai adoré.
Voilà, et L'écume des jours est devenue une sorte de bible.
Voilà, c'est vrai. Et puis il y avait tous les autres livres aussi.
Mais donc en 66, la même année, vous obtenez votre diplôme d'ingénieur et vous sortez un tube gigantesque, Les Élucubrations. Vous n'avez jamais exercé votre métier d'ingénieur, Antoine ?
Non, quelques années après, c'est ça qui m'a amené en plus à trouver la propriété où j'habite en Auvergne. C'est que quelques années après, à peine un an après Les Élucubrations, il y a le maire d'un petit village qui me passait un message qui voulait construire un centre de loisirs non loin de son village, comme ça.
Et il fait appel à vous ?
Il fait appel à moi. J'ai dit, moi, j'ai mon diplôme, il est déjà un peu... je faisais chanteur depuis un an. Hein. Et mon diplôme, il est déjà un peu dépoussiéré, un peu éventé, quoi. Et si, on va le faire. Et mon père était ingénieur, avec un autre copain, on fait un bureau d'études. Et puis le truc s'est jamais réalisé. Parce que c'est, bon, toutes sortes de raisons, ça s'est jamais construit. Mais dans la rencontre, ça a également changé ma vie, puisque lorsque je suis allé dans ce petit village, j'étais déjà lassé du show business. Ouais. Vous avez connu ça vous aussi, les désagréments, il faut être tout le temps sur la brèche et tout. Et je lui dis comme ça, oh, je rêve d'un endroit où je puisse m'asseoir au coucher du soleil, sur le pas de ma porte, et regarder passer le berger ou la bergère et ses moutons. Il m'a dit, j'ai ce qu'il vous faut.
J'ai ce qu'il vous faut. Et vous avez acheté la petite ferme en Auvergne.
Il m'a emmené dans cet endroit et j'ai acheté, je venais de toucher mes premiers droits d'auteur. L'endroit n'était pas cher parce que personne n'en voulait depuis 50 ans. Et j'ai acheté ça et j'ai eu la chance de pouvoir le garder jusqu'à nos jours.
Ça, c'est formidable. Alors, c'est quand même savoureux parce que j'allais vous dire que, bon, on a oublié à quel point... vous allez comprendre pourquoi je parle de Maurice Chevalier. On va dire que je fais des digressions quand même assez curieuses. Mais on a oublié à quel point dans les années 60, Maurice Chevalier était une star planétaire dont raffolaient les Américains. Et en 66, justement, année des élucubrations, Maurice Chevalier avait déclaré au magazine Time... En France, on ne parle que d'Antoine. Jamais personne n'est arrivé au sommet du succès aussi vite. Ce garçon est très surprenant. Il a l'air d'un beatnik, mais il est extrêmement cultivé. Il a fait Centrale. Seulement, est-ce que le public le suivra s'il continue dans l'excentricité? Et je voulais savoir si vous, à l'époque, vous aviez envie, justement, d'autre chose que du showbiz. Et en fait, vous en êtes lassé très vite. C'est-à-dire que 2 ans après, par exemple, vous chantiez une chanson assez désabusée, « Ramenez-moi chez moi ». Ça, c'était symbolique de l'envie déjà de prendre la fuite.
Ben moi, j'ai fait du show business par inadvertance, hein. Par inadvertance, parce que j'ai pris la route avec ma guitare, et puis il fallait bien gagner ma vie. Je me suis mis à gratter la guitare dans les rues, à Marseille, à Cannes, etc. Et puis ça m'a permis de voyager. Et en rentrant à Paris, finir mon année d'études. Je donnais des leçons particulières de mathématiques, ça ennuyait un petit peu parce que c'était un peu lassant à la fin. Je dis, j'ai essayé de trouver un cabaret, un endroit, un café. Et puis, au lieu de trouver ça, j'ai trouvé un petit jeune directeur artistique qui était un rêveur fini, qui croyait qu'il allait devenir un des plus grands producteurs de France. Il s'appelait Christian Fechner. Voilà. Et puis un petit éditeur vraiment débutant, hein, qui me dit, ah non, les élucubrations, non, faut pas sortir ça parce que tu chantes, c'est pas, non, tu vas être le Dylan français. Moi, je voulais pas être le Dylan français, je voulais être Antoine. Et il me dit, non, tu chantes Almanach Vermeaux, là. Non, ben, il voulait pas que je la chante. Il s'appelait Alain Boublil. Qui a quand même écrit, co-écrit Les Misérables.
Mais oui.
J'étais bien entouré, mais j'avais pas demandé. C'était un simple hasard.
Donc vous avez toujours suivi, en fait, contre vents et marées, c'est le cas de le dire, vos envies, et vous avez eu bien raison. Alors, vous êtes lancé un beau jour, finalement, le premier. Mais on va raconter comment tout ça s'est déroulé. La première traversée, juste avant de faire une pause, celle qui laissait pratiquement tout derrière vous, Antoine, avec le premier bateau, elle s'est bien déroulée? Parce que vous aviez déjà manœuvré un bateau ou jamais?
Très peu, j'avais très peu manœuvré.
Mais c'était une folie de partir ainsi alors?
Moi, c'est ce que je conseille dans le livre en particulier, c'était le premier conseil, il y a deux conseils. Il y en a un, c'est de faire des petits pas. Et quand vous me demandez ma première traversée, ça a été de Port-Vendres jusque tourner le Cap Creux en choisissant une bonne météo. À l'époque, on m'avait prévenu. Et puis, j'avais un rendez-vous avec mon ami Salvador Dali, là-bas, qui m'avait invité à déjeuner. Donc, j'ai fait cette petite étape-là pendant...
En Espagne, donc.
En Espagne, oui, à Port-Ligat, près de Cadaqués. Ça a été ma première étape. Voilà, vous me demandez ma première traversée, ça a été ça.
Et vous n'aviez jamais barré un bateau avant?
J'avais barré un petit peu, puisqu'avec l'architecte et puis un coureur, Marc Pageot, coureur olympique, on avait fait une petite sortie en Corse et j'avais pas grande expérience, mais ce que je dis dans le livre, c'est que tout est possible. Le plus grand voyage, comme disait Bernard Moitessier, commence par un petit pas, mais ce qu'il faut, c'est surtout le faire, ce premier pas.
Europe 1, 17h-18h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Antoine, quand on vit sur un voilier, on élimine le superflu pour garder l'essentiel. Alors, bien sûr, à part l'accastillage qui concerne le bateau, vous avez besoin de quoi quand vous êtes pendant 6 ou 8 mois sur votre voilier?
Ben ça a beaucoup évolué au fil des années. Hein. Quand je suis parti, j'avais rien. Le bateau, il était vide. Le premier bateau, il était vide. J'avais pu m'acheter la coque, les mâts, le gréement, les voiles, un moteur qui trônait au milieu du bateau, même pas emballé, rien du tout. Il était posé là, non. Il n'y avait pas d'habillage autour de coffre, rien du tout. Il faisait un bruit infernal dans le bateau. Voilà. Et puis petit à petit, moi j'avais une espèce de couchette sommaire, oui, j'avais une couchette sommaire.
Sommaire à côté du moteur.
Tout près du moteur, voilà, qui avait été bricolé comme ça, voilà. Et puis j'avais pas de pilote automatique électrique comme maintenant. J'avais une espèce de un truc sympathique mécanique qui s'appelait un régulateur d'allure et qui était trop faible pour barrer mon bateau. C'était un grand bateau. Je parle dans le livre, je parle du choix du bateau, c'est très important.
Voilà, alors justement, la longueur idéale d'un voilier, pour qu'il soit facile à manœuvrer pendant des grandes traversées, par tous les temps, quand on part la toute première fois, c'est quoi la longueur idéale?
Pas trop petit, pas trop grand.
C'est-à-dire...
Et puis ça dépend des moyens qu'on a. J'ai vu des gens heureux sur des petits bateaux, je dirais pas un bateau de 3-4 mètres, hein, mais j'ai vu des gens heureux sur des bateaux de 8-10 mètres, hein, partir au bout du monde et tout. Mais j'ai vu aussi des gens malheureux sur des bateaux de 15-16 mètres parce qu'ils pensaient par exemple qu'il fallait partir avec des copains et puis un couple, deux couples et construisant un bateau. J'aborde un peu tous ces sujets-là sur le choix du bateau. Comment choisir aussi entre monocoque, multicoque, taille du bateau, matériaux également, pas de matériaux. Beaucoup de bateaux sont en fibre de verre, il y en a des très bien, mais beaucoup de gens naviguent avec des bateaux en fibre de verre.
Parce que c'est le prince des océans, Bernard Boitessier, qui vous avait convaincu que pour les longues traversées, rien ne vaut une coque en métal. En fait, la coque en métal, que ce soit de l'acier ou de l'aluminium, ça a beaucoup d'avantages par rapport au bois.
Entre autres, c'est beaucoup plus solide que le bois ou la fibre de verre. Hein. Et puis, une des choses qui m'a poussé à choisir des bateaux solides, c'est il y a quand même des risques de cogner quelque chose en mer.
C'est ça.
De plus en plus. Vous avez peut-être vu le film avec Redford où il passait son temps à essayer de survivre après avoir tapé un conteneur flottant.
C'est ça.
Le bateau en aluminium ou spécialement aluminium épais comme le mien, ou bien en acier, apporte vraiment beaucoup plus de sécurité. Quoi. On n'a pas cette préoccupation-là en même temps. Quoi.
Donc les cargos la nuit, c'est un gros souci, parce que là vous avez dit, il y a les containers, mais en fait le premier risque en mer, plus que les tempêtes, c'est la collision avec ça peut être un récif, ça peut être un navire.
Voilà.
Vous arrivez à dormir la nuit?
Moi j'arrive à dormir la nuit, mais avec dormir réveillé. Quand je suis seul, c'est-à-dire on se réveille toutes les 20 minutes à peu près, en calculant les codes de risque. On est tous à la merci des statistiques, hein. Avec le risque, je parle pas des gens en course, parce que en course, ils vont tellement vite que ça pourrait être dangereux de cogner quelque chose. Mais on met la vie de personne en danger si on dort un quart d'heure, quoi, 20 minutes. Alors on dort, quand on est une traversée tout seul, on dort éveillé, quoi. On dort un petit peu, hop, toutes les petites sonneries qui sonnent. Je donne même le conseil de la petite sonnette idéale, beaucoup mieux qu'un smartphone.
C'est un petit
objet à 5$, hein, qui est un petit truc chinois ou japonais, et qui c'est le seul truc qui me réveille bien. Et ça sonne très fort, et puis surtout on le relance on se réveille, on est comme ça, on est tout vaseux et tout, là vous voyez pas, je ferme les yeux, là je mime la scène.
Mais on arrive à rester en forme en dormant si peu sur un voilier.
On se réveille et puis on jette un coup d'œil, on sort, on regarde le contour du cockpit et hop, on replonge loin. Et il y a juste à appuyer sur un bouton dans le noir et ça vous réveille à nouveau dans 20 minutes. Quoi.
Alors Antoine, le deuxième danger en mer, qui s'avère dramatique, hein, quand on navigue en solitaire, c'est de tomber à l'eau, bien sûr. On se souvient d'ailleurs de l'épisode dramatique où Florence Artaud tentait d'appeler sa maman avec un portable comme ça qu'elle tenait à bout de bras au-dessus de la tête pour qu'il ne soit pas submergé par les vagues. Est-ce que vous vous accrochez quand vous vous déplacez sur le pont de votre bateau par gros temps?
Par gros temps, oui, j'ai des harnais, des possibilités, mais pas tout le temps parce qu'on est trop empoté, quoi. En fait, on est trop empoté, mais la plupart du temps, sur les routes qu'on fait, que moi je suis pas en course, hein, je suis pas du tout en course.
Ouais,
j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour. J'ai des tas de copains en plus navigateurs comme Titouan Lamazou qui a dessiné la couverture du livre d'ailleurs, et puis comme plein d'autres, quoi. Et j'adorais Éric Tabarly aussi, mais nous, dans nos navigations, c'est très rare qu'on ait du mauvais temps. Parce que d'abord, on part pas à une date fixée par un comité de course. On part, s'il fait mauvais, Maintenant qu'on a des bonnes météos, on attend une bonne météo. Et puis s'ils font des prix dans du mauvais temps, ben, la plupart du temps, on peut attendre. C'est pas la peine.
D'ailleurs, vous confiez n'avoir jamais vraiment connu en 50 ans de navigation autour du monde, donc une véritable tempête. Vous êtes un homme chanceux?
Non,
ou prudent?
Chanceux et prudent, oui. Il y a toujours un petit peu de chance dans la vie. Hein, on est tous à la merci de la chance ou de la malchance. Mais il faut courtiser la chance et elle vous sourit. Mais j'avais eu de grands moments terrifiants. Il m'est arrivé de moments de découragement, oui, de ras-le-bol, de dire ah non, là. Quand très très peu, peut-être une seule fois, il m'est arrivé de dire au milieu d'un coup de vent, quand j'arrive au bout de l'étape, j'arrête. C'est pas du tout, voilà. Quand on arrive, on a beau se faire secouer, c'est pas rose chaque instant, hein. Mais quand on arrive, on oublie tout, on garde que les bons souvenirs.
Ça fait cage de Faraday, un bateau en acier, alors, comme le vôtre,
éclairs. Je pense que il y a eu beaucoup de cas, en plus avec l'aggravation, la détérioration du temps, actuellement, il y a pas mal de bateaux qui ont souffert de coups d'orage, un drôle de coup de foudre, quoi. C'est pas le coup de foudre dont on rêve. Et qui ont vu des tas de choses dégradées et tout. Alors, il y avait une vieille méthode dont je parle. Les vieux marins, ils mettaient un bout de chaîne attaché au pied du mât et qui est trempé dans l'eau. Comme ça, la décharge électrique partait dans la mer, quoi. Voilà. Et avec le bateau en métal, bon, je jure de rien parce que en tout cas le bateau métal, en principe l'électricité part dans la mer, c'était la cage des conductrices courantes, quoi. Voilà, donc il m'est arrivé de recevoir de la foudre, de ressentir des choses bizarres, d'avoir quelques appareils un peu souffert, mais en général c'est toujours parti à la mer, quoi. Donc c'est un avantage de plus du bateau métallique.
Antoine, en mer, on n'écoute pas de musique?
Oh si, on écoute de la musique.
Qu'est-ce que vous écoutez?
Oh ben, j'ai eu la chance, à l'époque on écoutait beaucoup la radio, maintenant on écoute beaucoup des bases de musique, etc. et tout, mais à l'époque c'était le seul lien souvent qu'on avait avec un pays, on écoutait les stations de radio locales, quoi. Les stations de radio parce qu'on passait devant le pays, quoi. C'était amusant. On arrivait au Brésil, il y avait la musique au Cap-Vert, la musique capverdienne, c'était juste avant que Cesária Évora soit révélée au monde. Il y avait leur musique géniale. Tahiti, la musique polynésienne, l'Australie. J'ai découvert des chanteurs incroyables, aussi bien venus d'Amérique, aussi un garçon que j'adore qui est décédé l'an dernier, qui s'appelait Jimmy Buffett, un Américain qui a vécu un petit peu la même vie que moi, mais lui il est devenu milliardaire parce qu'il a eu un tel succès, qu'il remplissait des stades de 35 000 personnes toute sa vie, et il avait fait une chanson qui s'appelait Margaritaville. Et du coup, il est devenu le chanteur des bars, des plages et des fêtes comme ça. Et les gens faisaient la queue par milliers, dizaines de milliers pour aller le voir et aller boire des margaritas dans les restaurants qu'il a fondés et tout. C'était incroyable. Il vendait des vêtements, des trucs. Il était merveilleux.
Alors, puisque vous parlez de chanteurs, nous, on a notre star en France. On avait Johnny. Un jour de 1983, Johnny vous appelle et vous dit « Bon, Antoine, je veux absolument partir naviguer comme toi sur les mers. Alors voilà, quel bateau tu me conseilles ?» Faut nous raconter la suite.
Eh ben oui, il m'a appelé comme ça. C'était sympa. Bon, Johnny fait partie des gens. Ah, bon, il y a eu la petite guéguerre et l'écubration cheveux longs et des courtes en 66, mais cette étude épidermique est pas très long, quoi. Ça a duré quelques semaines, quoi. Mais au fil des années, il fait partie de ceux que j'ai rencontrés le plus souvent. Moi, je parlais avec un ami tout à l'heure dans le show business. Vous avez connu ça vous aussi dans le show business. Eh ben. Quelqu'un dont on est très proche, c'est quelqu'un qu'on a vu cinq fois en 10 ans, quoi. Voilà. C'est ça, parce qu'on est tellement parti par nom et par mot, etc. Voilà. Alors, Johnny, c'était quelqu'un de proche puisque je l'ai revu, j'ai réentendu, je l'ai accompagné sur scène un jour à la guitare, dans une fête à Cambrai. Et puis, là, un jour, il m'appelle. Il venait me voir à des spectacles aussi. Et là, il m'appelle, et donc, il voulait se construire un bateau, quoi. Et je lui ai conseillé un bateau à...
Carrément. vraiment construire.
Un bateau. Bah, il voulait faire construire un chantier.
Ouais,
il
pas
voulait,
acheter, il faire voulait, construire bon, sur un chantier.
Voilà. Et moi, je lui ai proposé, parce qu'il y avait le chantier qui avait fait mon bateau, qui avait lancé la construction d'un magnifique bateau de 17 mètres, sur le même principe que le mien, et qui aurait vraiment été une goélette superbe et tout. Mais non, c'est pas ça qu'il cherchait. Il cherchait, lui, il voulait un truc pour être avec des copains, équipiers, dans des équipiers, un marin, etc.
C'est-à-dire faire la fête sur mer.
Faire, jouer, peut-être même pas faire la fête, jouer aux cartes.
En tout cas, tout ça était très, très éloigné de la navigation.
Voilà, voilà. Donc il s'est acheté un bateau à moteur.
Ouais. Voilà, alors, d'ailleurs, les gens qui naviguent sur voilier appellent les bateaux à moteur des fer à repasser.
Oui, ou des promène-couillons, ou des en anglais, des gin palace. Gin palace pour ça. Non, non, mais il y a des gens. Et je parle aussi dans le livre, il y a aussi des gens heureux sur des bateaux à moteur. Il y en avait un qui était un garçon que j'adorais, mais qui est décédé malheureusement en plongée, c'est Laurent Bourgnon,
oui.
Ancien coureur.
Oui.
Ancien coureur qui avait des grands succès.
Un palmarès.
Un palmarès, voilà. Des grands succès dans les courses nautiques. Et puis il a voulu partir en bateau. Et puis il m'a raconté ça plus tard. Il m'a dit, mais j'ai eu des telles sensations avec des bateaux qui marchaient à 30 nœuds que un voilier, un bateau de plaisance à la voile, ça va pas me plaire parce que ça marchera pas pareil, quoi. Alors donc j'ai fait un bateau à moteur.
Voilà.
Et lui, il est parti avec un bateau moteur. Il avait fait un bateau avec des grands réservoirs pour pouvoir faire le plein là où le fuel était pas cher. Et ensuite, il partait, il pouvait traverser un océan
donc,
entier.
Donc chacun appréhende la
voilà,
mer comme il l'entend.
Voilà. Donc je connais des gens, j'en parle dans le livre, des gens heureux sur des bateaux à moteur aussi.
Ça existe aussi. Bon, revenons à vous, Antoine. Vous qui avez sillonné le monde à la voile, vous vous êtes jamais aventuré en Antarctique. Pourquoi ?
Jamais été tenté ni par le froid, ni surtout par les coefficients des risques de tempête. Vous savez, ça existe toujours sous forme papier ou sous forme informatique maintenant. Je donne également l'adresse, mais ça s'appelle les pilot charts. C'est des cartes du monde, mois par mois, qui indiquent la proportion de vent, la force des vents, les températures.
Et en Antarctique, c'est voilà. Toujours élevé.
Et alors, sitôt qu'on part au-dessus de 40 degrés nord ou 40 degrés sud, ça affiche des chiffres qui ne me plaisent pas. Des chiffres dont je préfère me passer. La force des vents et des tempêtes, etc. Donc, j'ai choisi, moi, une navigation paisible, heureuse,
voilà.
Rien à démontrer à personne. Voilà.
Mais vous n'êtes jamais non plus allé ni en Chine, ni en Inde. Pourquoi ?
Ben, c'est des pays qui ne sont pas simples d'accueil, quoi. Il y a certains pays qui sont habitués à recevoir je parle aussi de ça, l'évolution du monde, parce qu'il y a des coins qui sont devenus infréquentables. Moi, j'ai traversé la mer Rouge, c'était sans risque. Ou le tour de la Corne de l'Afrique, par exemple, il n'y avait pas de piraterie
au large de la
Somalie.
Maintenant, toutes les nuits, on tombe sur un pirate.
Voilà. Maintenant, il y a pas toutes les nuits, mais ça arrive, quoi. Mais ce que j'ai dit aussi dans le livre, c'est qu'il y a des régions qui se ferment à cause de guerres, heureusement pour l'instant seulement régional, et il y a des régions qui se ferment mais d'autres qui s'ouvrent, quoi. Là par exemple, je suis sur internet certains navigateurs qui naviguent dans des endroits peu connus comme les Philippines, le Japon, qui sont en route vers le Japon, et le Japon c'est un pays merveilleux. Moi, j'y suis allé, mais pas en bateau. J'y suis allé tourner un film. J'y suis allé trois fois de suite avec ma compagne. On est allé tourner au Japon, qui était magnifique. Mais c'était pas en bateau. À l'époque, on pouvait pas y aller en bateau. C'est pas que c'était interdit, mais c'était mal pratique avec des risques de cyclones, de typhons, ça s'appelle là-bas. Mm-hmm. Et puis, non, mais le Japon est en train de s'ouvrir maintenant. On peut commencer à y aller en bateau. J'attends. Je pense que le Vietnam devrait s'ouvrir aussi. Les pays communistes ont eu du mal à s'ouvrir. Même la Chine, c'est pas facile. Maintenant, ils construisent des magnifiques bateaux, ils construisent des très beaux bateaux.
Mais pour aller dans leur port,
c'est
compliqué.
Oui, oui, c'est très compliqué.
Bon, cher Antoine, vous n'avez été chanteur que pendant 8 ans, entre 66 et 74. En revanche, ça fait un demi-siècle que vous glissez à la voile sur les océans du bout du monde. Alors, la question à laquelle un navigateur n'échappe jamais, c'est la suivante. Le plus bel endroit de la planète, le lieu idéal. Je sais que vous finissez toujours par lever l'ancre pour repartir, mais...
Ben, le plus bel endroit du monde, il est devant l'étrave. C'est la prochaine destination, forcément.
Ben voilà.
C'est la prochaine destination, parce que c'est là qu'on rêve d'aller. Et puis, si jamais...
C'est une quête,
Graal. Oui, si jamais c'est un peu moins bien que ce dont on rêve, eh ben, c'est pas grave. On prend que les bons côtés.
On poursuit le voyage.
On efface. On m'a souvent reproché de se montrer dans des films que j'ai réalisés, toujours ce qui était beau. Mais ça a été un choix dans la vie. C'est pas seulement dans les films, quoi. C'est de ne regarder que ce qui est beau, quoi. Alors, il y a des gens, souvent des gens disent, mais vous ne montrez pas la laideur, la pollution, comme ça se dégrade et tout. Ben, je dis, c'est important que des gens dénoncent tout ça, c'est important, mais moi, j'ai envie de montrer ce qui est beau. Je pense que les gens auront plus envie de protéger la planète, la mer et le reste,
en voyant
que c'est beau.
Voilà. Alors justement, vous me tendez une perche, parce que Antoine, vous disiez, il y a 6 ans, les catastrophes climatiques, c'est comme une toilette de la nature. La nature nettoie et se nettoie. Il y en a toujours eu des catastrophes climatiques. En fait, vous pensez comme Olivier de Kersauzon que la nature obéit à des cycles.
Elle obéit à des cycles, mais quand même, je revois le schéma d'Al Gore quand il a failli être président des États-Unis à une certaine époque. Et il y a des cycles, mais pas les cycles qui reviennent au même endroit. Malheureusement, les cycles, le temps d'un cycle, les dégâts ont eu le temps de monter d'un degré, quoi.
D'accord.
Et au bout d'un moment, je sais pas quand même. C'est vrai qu'il y a des cycles. Mais il faut quand même faire quelque chose, quoi.
Mais l'homme met tout ça à mal. Alors, vous avez 3 enfants, Antoine. Ils naviguent tous ?
Ils naviguent pas. Non,
pas
ils
du
ont,
tout.
Ils ont un peu navigué avec moi, mais ils ont été élevés par leur maman et leur grand-maman en Polynésie. C'était ça le deal au début. C'était ça le principe. Ils ont.
Dites donc, c'est pratique. Donc, vous faites 3 enfants et vous continuez de naviguer et les femmes s'en occupent.
Voilà. Ben oui, c'était comme ça. Ma compagne de l'époque avait très envie d'avoir des enfants. Moi, j'avais envie de continuer à voyager. On a dit que. Donc, il a été convenu que je serais pas un papa omniprésent. D'abord, que je financerais tout, bien sûr, puisque c'est moi qui j'ai eu la chance de pouvoir, grâce en particulier à Todd, les opticiens, de pouvoir payer les meilleures études à mes enfants. C'est ça.
Ils ont magnifiquement réussi, parce qu'il faut préciser, chacun dans son domaine. Bon, l'aîné dirige la filiale australienne du numéro 1 mondial des jeux vidéo pour mobile. Ouais. Votre second fils dirige la cybersécurité de la compagnie aérienne tahitienne. Et votre fille a créé des restaurants étoilés à Courchevel. Elle est chef cuisinier.
J'ai la chance.
Vous avez des enfants.
Il faut dire qu'ils ont été élevés par des personnes formidables aussi, mais ils n'ont pas eu envie de partir voyager comme moi. Ils ont envie de ça. Peut-être qu'un jour ils y viendront. De temps en temps, chacun est venu sur le bateau. J'ai fait des traversées, des grandes traversées avec ma fille et son compagnon de l'époque. Donc ils sont mon fils qui est à Brisbane, comme je suis souvent en Australie. Le bateau est en Australie. Je les vois assez fréquemment, pas moins fréquemment que la plupart des parents, bien sûr, mais ça reste quand même une famille liée, et puis je suis ravi de leur réussite et ravi que chacun d'eux ait choisi quelque chose d'indépendant.
Bien sûr. Alors Antoine, vous fêtez vos 50 ans de navigation au moment où le président Macron déclare l'année à venir année de la mer. Mais il faut bien dire qu'entre les législatives et les Jeux Olympiques, quand même, on n'en a pas beaucoup entendu parler de cela. C'est dommage.
Oui, ben, je pense qu'on attendra. C'est l'ouverture de l'année de la mer, c'est le 20 septembre.
Oui.
Et puis moi, je serai là.
Juste au 20 septembre 2025.
Jusque les législatives plus les Olympiques, il faut parler d'autre chose. On parlera de la mer. Mais par contre, je réponds présent à l'appel en septembre. Je serai là. Je serai en particulier au Grand Pavois de La Rochelle, un lieu qui a été essentiel pour moi parce que quand je suis parti, j'ai trouvé tous les conseils qu'il fallait là-bas. Et vraiment, c'était en quelques heures au Grand Pavois, j'ai eu plein de clés qui m'ont permis de faire mon voyage, quoi. Et puis ensuite, je pense que je vais aller assister peut-être au départ du Vendée Globe sur l'invitation de mon copain, le grand navigateur Titouan Lamassou également.
Qui a fait la couverture de votre livre.
Qui a fait la couverture de
livre. Une couverture, alors il faut le préciser, hein, qu'on peut voir soudain bouger, s'animer par un protocole que vous allez nous expliquer, n'est-ce pas ?
Pas sur le livre, bien sûr, parce que le livre s'est imprimé.
Voilà.
Je me suis amusé à faire une vidéo où tout d'un coup la photo, le dessin, c'est pas une photo, c'est un magnifique portrait par Titouan Lamassou avec des cocotiers, des branchages, etc., des fleurs et tout. Et tout ça discrètement se met à s'animer. On peut le trouver sur notre site internet, par exemple. Et puis on va essayer de le mettre sur le site d'Europe numéro 1.
Et ben voilà, c'est exactement ce qu'on va faire.
Numéro 1,
moi,
Europe 1, voilà.
Vous êtes pardonné parce que vous veniez ici à Europe 1 en 66 pour les élucubrations. Bon, Antoine, vous êtes à la fois navigateur et paysan, puisque vous nous l'avez dit tout à l'heure, avec vos premiers cachets dans les années 60, vous avez acheté une ferme isolée en Auvergne, cette région que vous adorez, et elle est depuis toujours votre refuge sur Terre. Mais comment vous passez du statut de marin dans l'immensité salée à celui de paysan auvergnat dans le vert de sa campagne, qui peut être très rude. Hein.
C'est pareil, c'est un peu, c'est vert d'un côté, c'est bleu de l'autre. Hein, c'est vraiment. Moi, je suis là où, un océan. Là où j'ai vu, c'est un océan. Je vois toute la plaine de Limagne qui s'étend à des dizaines de kilomètres avec les monts, la chaîne des puits, les Combrailles autour de moi. C'est pas un jeu de mots, c'est pas un village de mots. Les Combrailles, c'est une région.
J'entends bien.
J'y avais pensé.
Les Combrailles. Voilà, soudain, ça fait des années qu'il vit là-bas, mais soudain, il réalise. Formidable.
Ah ben, super.
Bon, je profite de l'éclat de rire d'Antoine pour lui poser cette question. En décembre, Antoine, vous allez donc vous diriger vers le Queensland en Australie pour récupérer votre catamaran qui est au sec chez des amis. Et puis, vous allez filer vers le sud pendant que nous, on regardera la neige tomber. Mais avant, j'aimerais savoir, vous allez traverser l'été comment ? Les Jeux Olympiques, vous allez les suivre depuis l'Auvergne ?
Le moins possible. Le moins possible, non. Alors ça, je n'ai jamais pratiqué aucun sport. Pour moi, le bateau, c'est pas un
mais
sport.
Mais c'est tous les sports réunis.
Oui, c'est tous les sports, mais c'est pas des sports.
C'est tellement physique, la voile.
Un sport, c'est essayer de faire mieux que les autres. Et moi, ça m'indiffère. Je sais pas de faire mieux que les autres. Moi, je veux pas faire
les
mieux que les autres.
Les médailles, vous
non,
en
non,
bah
non, non, je suis pas de, non, non, j'ai pas de, ni médailles, ni rien. Je vais donc passer la grande partie de l'été en Auvergne, à faire pousser des fleurs de courgettes et des choses. Dans ma compagne française, fait des plats magnifiques. parce que j'ai la chance d'avoir une compagne merveilleuse. Et puis, après le Grand Pavois, et puis dans le cadre de la mer, toujours, je vais présenter. En principe, on est en train de construire un projet de faire une grande tournée dans les cinémas CGR pour présenter un best-of de nos films, c'est-à-dire les plus belles îles du monde, quoi.
Wow.
Les plus belles escales, emmener les bas à partir d'octobre-novembre, quoi. Voilà.
Octobre-novembre.
Amener jusqu'au début décembre, amener les gens avec nous faire un tour du monde sur grand écran, quoi.
Ah, formidable, sur grand écran. En tout cas, le tour du monde, on peut le faire déjà avec vous grâce à ce guide pratique. Qui est vraiment exceptionnel, qui est exhaustif et qui en plus est savoureux à lire. Mettre les voiles avec Antoine, ça paraît chez Voile Gallimard. Je vous embrasse Antoine.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci David, j'étais très heureux de passer cette heure avec vous et je souhaite des bonnes vacances à vous tous, à tout le monde, garçons, filles, tout le monde que vous ayez dans un petit coin d'Auvergne comme moi ou parti ou au bout du monde comme je le fais souvent. Eh bien, bon voyage, bon séjour et que du bonheur.
Isabelle Morizet sur Europe 1.